Suivez le guide avec Elisabeth Boivin, guide interprète nationale du tourisme. Laissez-vous porter par sa fougue et sa passion à travers les chemins du patrimoine. Elisabeth vous emmènera, sans avoir l'air d'y toucher, dans la réalité et dans le rêve. Et tout ceci est possible grâce à notre ami fidèle Laurent à la technique.
Suivez le guide avec Elisabeth Boivin, guide interprète nationale de tourisme. L'été est là avec son goût de vacances, de rencontres, de découvertes culturelles ici et ailleurs. Mais il n'est pas nécessaire de faire des centaines de kilomètres pour passer un bel été. Elisabeth vous propose donc une partition pour Petite Fugue Insolite en duo tout de suite avec son invité Louis Fournier.
Bonjour Louis Fournier, vous êtes le créateur de cette maison du Galochier que je qualifierais d'atelier musée intimiste qui ravive une tradition locale et populaire de fabrication de galoches. Pouvez-vous nous dire comment est né ce projet ?
Bonjour Elisabeth Boivin. Bien, ce projet est né de l'observation qu'il y avait dans tous les villages de France des fabricants de galoches qu'on appelait les galochiers. Ces artisans ont fermé dans les années 1960 et toutes les entreprises, bien sûr, ont perdu leur savoir-faire. Et la galoche est une chaussure qui a été un peu galvaudée et qui est tombé dans l'oubli, car c'était un signe extérieur de pauvreté, car c'était la chaussure du pauvre, des ouvriers et des cultivateurs. Alors cette idée m'est venue du fait que dans la vallée de la Bourbe, qui coule entre la Tour du Pin, Bursin et Virieux, il y avait nombreux galochiers, et notamment une galocherie industrielle, qui était fer de lance de la fabrication des galoches pour le Nord-Isère, entre autres. Et cette idée est venue du fait que j'ai dû, en ayant écrit des livres sur le village de Virieux, j'avais observé que beaucoup de personnes avaient encore dans leur mémoire l'histoire des galoches de leur grand-oncle, de leur grand-père, de leurs aïeux, et des objets existaient encore. Mais par contre, ceci était totalement tombé dans l'oubli.
Oui, alors, je voulais vous demander, est-ce que ce projet de Maison du Galochier, est-ce que ça a été une réhabilitation d'un lieu existant appartenant à un ancien galochier, ou est-ce que c'était vous avez collecté des outils, des machines qui ont permis une reconstitution d'un atelier de galochier?
Oui, c'est le deuxième cas de figure, à savoir que les ateliers galochiers ont tous été détruits, tout, il n'en reste presque plus. En activité en France, il y a encore une dizaine de galochiers qui fabriquent des galoches basses, mais les ateliers galochiers n'existent plus, ils sont tous tombés en ruine. Et nous avions à Virieux effectivement des documents, et il m'a été donné de pouvoir les collecter auprès des familles et d'aller au-delà de Virieux pour collecter des galoches, l'histoire des galoches. J'ai fait environ plus de 10 000 kilomètres. J'étais en Bretagne, j'ai été à Aurillac, dans l'Aveyron, vers la région de Bordeaux, dans la Charente, pour retrouver l'histoire des galochiers et aussi essayer de savoir à quoi servaient les objets, parce qu'il n'existe pas de livre sur l'histoire des galoches. Cette histoire a été perdue totalement et volontairement, d'accord, parce que c'était la chaussure du pauvre. Et le musée de la chaussure de Roman, qui est un des très beaux musées de France, le plus beau, ne possède pas ou peu d'histoire concernant la galoche. D'accord. Car Roman, c'est la chaussure de qualité, noble, alors que la galoche, c'est devenu péjoratif.
Et dans vos pérégrinations à travers la France, est-ce que vous avez noté ou trouvé des différences entre les différents types de galoches selon la région ?
Oui, exact. Alors, très bonne question. Il y a les galoches montantes, ce sont comme des brodequins avec des semelles de bois. Il y a les galoches basses qu'on trouve actuellement et qu'on appelle à tort dans les jardineries sabots suédois. Ce ne sont pas des sabots. Le sabot est entièrement en bois et la galoche, c'est une semelle de cuir avec une semelle de bois avec une dessus en cuir. Alors, il y a beaucoup de pays qui ont, les pays plats par exemple, ont des galoches basses, alors que les galoches montantes sont plutôt faites pour les pays de collines, car c'est plus facile à marcher dans les collines et dans les montagnes, avec des chaussures montantes, des tiges montantes. Et le sabot, aussi bien que la galoche basse, est plutôt fait pour les pays plats. Alors bien sûr, il y a des pays qui ont des galoches avec des agréments de cuir découpé, des ouvertures, tout dépend des pays. En Charente, ce n'est pas les mêmes galoches que chez nous, par exemple.
Et entre un homme et une femme, c'est le même style de galoche ou... Alors, je pense qu'au niveau des enfants, c'était à peu près un peu tous des galoches montantes, peut-être.
Alors, exact. Les galoches montantes existaient aussi pour les enfants, très 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 petites, hein, environ 12 cm de long, ça fait très petit, c'est presque un bébé. Alors, pour les enfants, ces galoches, par exemple, vu qu'ils changeaient souvent de pied, les pieds grandissaient très vite, il arrivait que les galoches n'aient pas de pied, à savoir que pied droit, pied gauche, c'était le même.
D'accord.
Notamment, je parle des enfants de l'assistance publique, où les budgets étaient très serrés pour eux, dans la mesure où ils étaient encore plus pauvres que les autres, eh bien, les commandes étaient faites pour des chaussures unipied. Unisexe aussi d'ailleurs. Mais alors, ça offre un avantage quand même, même si ça paraît barbare d'équiper les enfants avec des pieds les mêmes pour le droit et le gauche. Mais l'avantage était que lorsqu'on use beaucoup les souliers, nous-mêmes d'ailleurs, on use les pieds vers le talon droit, le talon gauche par exemple, eh bien, ça permettait aux gens de prendre la galoche de l'une, de mettre l'autre côté, et on usait totalement la galoche.
Oui, d'accord.
Voilà, Napoléon faisait ceci pour ses troupes, ça permettait d'user totalement les chaussures. Les chaussures de Napoléon, à une certaine époque, n'avaient pas de pied. Comme ça, on changeait, puis ça usait partout.
D'accord. Et donc, je pensais poser cette question de l'importance de la semelle de bois, mais je vois qu'elle est très, très importante, cette semelle de bois, puisqu'en fait, elle permettait un usage jusqu'à la corne, mais il n'y a pas de corne, mais voilà, de la chaussure, effectivement, qui correspondait bien d'ailleurs à l'esprit de l'époque, c'est-à-dire qu'on avait peu de choses et on avait le souci de l'économie et on se passait les chaussures et on les usait, voilà. Je voulais savoir, cette vallée de la Bourbe, est-ce que l'eau a eu une importance particulière par rapport à cette industrie, entre guillemets, de galoches?
Moyennement, on va dire non. Pourquoi? Parce que l'eau a entraîné les moulins, donc il y a plusieurs moulins hydrauliques, a servi à fabriquer et à produire très rapidement dans les années 1910 de l'électricité. Alors cette électricité entraînée et réalisée par la rivière La Bourbe a permis toutefois d'entraîner des moteurs électriques qui ont entraîné les moteurs pour les fabriques de semelles de bois, car c'est des outils qui consomment beaucoup d'électricité. Et avant, les semelles de bois, comme les sabots, se fabriquaient dans les forêts ou chez les cultivateurs en abattant des arbres, en gardant les branches. Seules les branches étaient utilisées. Les arbres entiers, le tronc était fait pour faire des meubles. Les grosses branches étaient fendues en quartier, en bio. Et de là, avec des parois, ce sont des grands, comme des grands sabres, avec une fixation sur un bio de bois, on pouvait, en exerçant des forces considérables, tailler comme un taille-crayon. On taillait la semelle de bois et le sabot. Et dans les années 1910, l'arrivée de l'électricité, c'est en fait dans la vallée de la Bourbe en 1910, les personnes ont pu à ce moment-là acquérir des moteurs et pouvoir entraîner des machines très rudimentaires, mais qui permettaient d'enlever des copeaux beaucoup plus importants et de faire des galoches d'une manière semi-industrielle.
Voilà. D'accord. Et alors, vous parlez de ce bois, de l'importance du bois. Alors, quel bois ?
Principalement, le bois pour fabriquer des semelles de galoches, c'était le frêne, le hêtre, et dans notre région, il y avait des noyers, donc du noyer. Mais tout dépend des régions de France dans lesquelles on se trouvait. Il y a des régions où ils n'avaient ni l'un ni l'autre, ils prenaient ce qu'ils pouvaient. Mais en général, c'est toujours, comme pour les sabots qui se fabriquent actuellement, c'est toujours du hêtre, du frêne, voilà, qui se travaille vert pour pouvoir permettre à l'outil d'enlever plus facilement les copeaux.
D'accord. Et ce bois, quand on utilisait, alors la galoche, quand on l'utilisait, bon, l'été, tout allait bien, mais si on l'utilisait l'hiver dans la neige ou dans des rues plus ou moins entretenues ou dans la pluie, comment réagissait ce bois ?
Effectivement, alors le bois déjà, la semelle de bois, c'est un matériau très sain, car ça permettait, on ne transpirait pas dedans, et ça permettait d'éviter la transmission thermique du froid quand il gelait. Mais par contre, quand la semelle était longtemps au contact de l'eau, de la boue, les semelles arrivaient quand même à s'user, bien que les gens mettaient dessous des bandes de pneus qui coupaient en morceaux pour protéger un petit peu de l'usure et du bruit. Il y avait des clous qui faisaient affreusement du bruit, mais de temps en temps, le bois arrivait à se fendre, surtout lorsque les enfants jouaient, ils tapaient dans les ballons, tout ça. Donc le père de famille, souvent, ou quand ce n'est pas le galochier qui reprenait la galoche, il fallait, à l'aide d'un petit arrache-pointe, enlever toutes les pointes qui sont là sur la périphérie, parce qu'une galoche, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une semelle de bois avec une tige en cuir, et l'ensemble est monté par clouage. Il y a à peu près une cinquantaine de clous ou une centaine de clous sur chaque galoche. À ce moment-là, on enlevait les pointes. La tige de cuir, elle, s'il était bien entretenu, le cuir se conserve une centaine d'années, si ce n'est pas plus d'ailleurs, et on déclouait, on enlevait la semelle de bois qui était abîmée. On allait soit en chercher une chez le fabricant de semelles de bois, ou alors, bien souvent, dans les régions assez pauvres, il y a une centaine d'années, du Nord-Isère, les parents avaient ces couteaux, ces parois, et ils allaient chercher une branche, et ils débitaient la branche, ils traçaient la forme de la semelle à remplacer, et dans la nuit, ils taillaient la semelle de bois, et ils reclouaient la tige de cuir sur la semelle de bois, et le gamin pouvait, le lendemain matin, aller à l'école. D'accord. Avec des voitures, des semelles toutes neuves.
D'accord. Et ils avaient, comme les chausseurs sur mesure, aujourd'hui, qui font des chaussures sur mesure, est-ce qu'ils avaient les gabarits de chaque personne ou on retaillait vite fait
Alors, au tout début, les compagnons galochiers, les premiers galochiers qui étaient dans les petits villages de France, il y en avait des dizaines de milliers, plusieurs par village, fabriquaient deux galoches à la demande, une paire de galoches à la demande. Donc, les gens venaient, ils posaient le pied sur le bout de bois, ils le traçaient, et puis ça offrait l'avantage, c'est que les gens, les galochiers étaient quand même, ils faisaient des chaussures orthopédiques avant l'heure, à savoir que si la personne avait un durillon, avait un oignon ou un piquet, eh bien la personne mettait un petit bout de cale et il compensait et il faisait des chaussures orthopédiques avant l'heure. Donc ça, c'était à l'époque. Mais après, il y a eu des gabarits qui étaient soit en carton, lorsque les gens étaient assez pauvres, hein, les galochiers. Donc, ils débitaient dans le musée de la galoche, on en voit. Ils coupaient dans les calendriers des postes, ils coupaient tout un lot de semelles, de toutes les pointures, et ils s'en servaient de modèle. Ben après, pour les galocheries plus industrielles, il y a eu des gabarits en carton dur, il y a eu des gabarits en tôle d'acier, et puis il y a eu l'arrivée de l'emporte-pièce. L'emporte-pièce a permis, en ayant un emporte-pièce de la forme exacte de la pièce de cuir, de débiter beaucoup plus facilement les semelles de bois. C'est un peu ce qu'avait inventé le gantier grenoblois Xavier Jouvin, qui avait réussi à faire un gabarit pour la taille des gants. Au lieu de découper sur un carton toute la forme des doigts, c'était fastidieux et pas précis. Xavier Jouvin a fait sa fortune à la Renommée de Grenoble en inventant l'emporte-pièce de la forme des gants qu'on a appelé la main d'acier ou la main de fer.
Ah, d'accord.
Voilà. Et à ce moment-là, on enlevait totalement une grosse paire de gants.
D'accord, très bien. Et dernière question pour cette partie, première partie de notre entretien. Est-ce qu'il y avait des galoches du dimanche ou des galoches de la semaine ?
Exact. Alors, tout comme il y avait les sabots de la semaine et les sabots du dimanche et des jours de fête et des événements tels que les mariages, il y avait des sabots magnifiques. Dans la galoche, il n'y a pas eu une telle profusion de choix et de luxe artistique, mais il y avait les galoches du dimanche. Alors, en général, la semaine, c'était les brodequins, galoches montantes, qui étaient bonnes à tout faire. Et le week-end, il y avait des galoches plutôt basses, plus ouvragées, plus fines, notamment pour les femmes. Il y avait des galoches avec une semelle plus moins épaisse, moins lourde.
D'accord.
Et les galoches étaient, elles s'appelaient des poulaines d'ailleurs, elles étaient doublées avec du cuir, de la fourrure de lapin. Voilà.
D'accord,
oui. Le lapin, parce que c'était ce qu'on avait sur place, c'était, les gens vivaient en autarcie, donc la peau de lapin. Et ça faisait des paires de galoches qui étaient très jolies, elles étaient cirées de temps en temps, mais il y avait plusieurs couleurs. Puis des petites décorations incrustées dessus à l'aide d'un tranchet pour donner des motifs.
D'accord. Et dans vos recherches, est-ce que les galochiers ont fait l'objet d'une corporation ? Est-ce que ça existait, une corporation de galochiers ?
Alors, elle était moins importante que la corporation des sabotiers, qui, eux, ont toujours joui d'une réputation, même encore maintenant. Le sabot, c'est mythique. On parle du sabot, on s'en sert à tout. D'ailleurs, on met des porte-clés dedans, on s'en sert de thermomètre, de baromètre. La galoche, non. La galoche, elle, Elle avait pour patron Saint-René, et le patron des sabotiers, c'est Saint-Crépin. Voilà.
D'accord.
Il y a eu des syndicats de galochiers, parce que les galochiers, il y en a eu des milliers. C'est des milliers dans chaque département. C'est des usines qui employaient 300, 400 galochiers. Hein. La région de Romans, pendant la guerre, ont eu des entreprises florissantes de galoches. Mais c'était des syndicats. Il y avait une fête des galochiers qui se passait une fois par an en France, mais il n'y a pas eu beaucoup de renommée comme les sabotiers.
D'accord.
Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson. Tap, 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 disent le matin les petits souliers de sapin. Tap, 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 faut te réveiller, te lever, travailler. En marchant, les midinettes semblent faire des claquettes. Et tout le jour, on entend ce bruit si éloquent. Quel charmant vacarme font ces milliers de petits souliers. Les femmes ont du charme, à présent jusqu'au bout des doigts de pied. J'aime le tap, tap, des semelles en bois. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson. Tap, 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 c'est le refrain de la rue pleine d'entrain. Tap, 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 la symphonie des beaux jours moins vernis. Ça claque, ça vibre et ça sonne plus qu'aimant qu'un klaxon. C'est le rythme parigot du sourire en sabot. Il chante la vie, il est nerveux, il est rigolo. C'est de l'euphorie que sa musique vous met dans la peau. J'aime le tap, tap, des semaines en froid. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson, c'est bon. Ah, que c'est bon. Mais que c'est bon. Oh.
Louis Fournier, nous avons passé cette musique, cette chanson, cette symphonie des semelles de bois par Maurice Chevalier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette chanson?
Alors effectivement, cette chanson, elle est très caractéristique et très entraînante. Elle a eu un grand succès de Maurice Chevalier. Elle concerne le port des semelles de bois, des chaussures de bois, à Paris et dans les grandes villes. Pourquoi ? Parce que toutes les campagnes, tout le monde connaissait et tout le monde portait des semelles de bois. Par contre, à Paris, il y a quand même quelques années avant la guerre, que les gens ne portaient plus de semelles de bois pratiquement. Alors les Parisiens ont dû, du fait de la restriction de tous les produits, toutes les matières premières, par les Allemands qui prenaient 75% de la production peut-être, les Parisiens ont dû porter des semelles de bois. Alors il y avait deux désavantages, la semelle de bois pour les Parisiens. D'une part, elle faisait du bruit, beaucoup de bruit, et les gens ont essayé de mettre des ersatz de caoutchouc, parce qu'il n'y en avait plus non plus, ils ont pris des bouts de pneus, ils ont cloué ceci dessous, mais ça faisait toujours quand même assez de bruit, d'où la chanson de Maurice Chevalier. Alors, les semelles de bois faisant du bruit, Ça a été une des raisons pour laquelle les gens ont très mauvais souvenir de Port des Galoches. Parce que dans les villages, par exemple, il y avait 90% peut-être de gens pauvres, fils de cultivateurs, enfin pauvres, peu aisés, et il y avait peut-être quelques pourcents de fils de bourgeois et de notables. Et lorsque les enfants venaient par bande des hameaux pour rentrer à l'école, les semelles de bois s'entendaient de loin, parce que ça faisait... Alors que les enfants qui avaient des chaussures en cuir, qui avaient la chance d'avoir les chaussures en cuir du fait de leurs parents un peu plus riches, eux, quand ils marchaient, ça faisait un bruit de caoutchouc. Alors, les enfants pauvres ont eu tout de suite des moqueries de la part des gens riches, et à ce moment-là, on savait qu'ils étaient de conditions modestes. Et ça a marqué les gens, à tel point que beaucoup de personnes qui ont maintenant 80 ans, quand elles viennent voir le musée de la Galoche à Virieux, elles ont des appréhensions. Il y a même des personnes qui ne sont pas rentrées dans le musée parce que c'était très violent. C'était des souvenirs violents. À partir du moment où les gens, tout gamin, on leur faisait comprendre qu'ils étaient de conditions modestes, c'était très difficile. Par exemple, il y a des maîtresses d'école qui interdisaient aux enfants de rentrer avec leur galoche. Donc les enfants devaient quitter leur galoche, les laisser devant la porte de la classe et marcher pieds nus parce qu'ils avaient des semelles de bois. C'était très, 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 très violent et les gens ont très mal perçu. C'était un marqueur social.
Ah, voilà. Complètement discriminatoire.
Ça a été très violent et c'est pour ça que l'histoire et la tradition des galoches s'est totalement perdue. Et c'est une perte volontaire parce qu'on n'en parle pas.
D'accord. D'accord. Et... On m'a parlé d'une déformation, alors peut-être plus sur la région d'Izo qui fabriquait des chaussures. Et est-ce que c'est le même problème pour Virieux, des artisans qui fabriquaient ces sabots ou ces chaussures? Une déformation du pouce ou de la main?
Oui, c'est le même problème aussi bien chez les galochiers que chez les fabricants de chaussures. Aussi bien ceux qui coupaient le cuir avec des tranchets ou avec des ciseaux. Il faut savoir que les gens travaillaient 9 heures par jour dans les années 1910 à peu près, dans des conditions difficiles. Ils avaient travaillé 6 jours sur 7. Donc les mains prenaient l'habitude de l'outil, notamment pour les galochiers. Il y a un descendant de galochier qui m'a amené le marteau de son père et de son grand-père, parce qu'il faut savoir qu'il faut d'abord couper le cuir, le coudre, ça c'était les piqueuses qui faisaient ceci, et là, à ce moment-là, on avait fait une tige. Ça s'appelle d'ailleurs toujours actuellement une tige. Et après, le galochier prenait une pince pour tendre et il prenait un marteau pour clouer des milliers de pointes dans la journée. Et ce galochier m'a amené le marteau de son grand-père. Le marteau, il ne reste plus que l'âme du marteau. L'emplacement des doigts a usé le manche, c'est-à-dire que on peut, en prenant le marteau, nos doigts viennent se loger dans les emplacements qui ont été creusés par la main de l'ancêtre. Mmh. Mais l'ancêtre, quand il est décédé, ses mains étaient atrophiées, il ne pouvait plus les bouger, à savoir qu'il ne pouvait que poser son marteau dedans. Sa main droite était inutilisable pour autre chose. C'était une déformation, c'était peut-être une maladie professionnelle, bien qu'à l'époque, on ne connaissait peut-être pas ceci, mais c'était le cas pour tous les gens qui, notamment les milliers de galochiers qui clouaient des galoches toute la journée et à des heures très tard.
Tout ce que vous nous dites là, c'est vraiment très très intéressant parce qu'on touche au cœur même du patrimoine populaire et du patrimoine artisanal, avec tout ce que l'artisanat a de noble justement. Et on voit tout à fait comment ça imprégnait, ça s'inspirait et en même temps ça imprégnait l'homme. Alors parlez-nous de votre musée justement, c'est intéressant. Vous citiez la réaction des gens qui rentraient ou ceux qui hésitaient à rentrer. Est-ce que vous avez dans le public de votre musée eu des gens qui vous ont apporté matière à expérience?
Alors effectivement, étant donné qu'il n'y a rien sur l'histoire de la galoche, ça s'est perdu mais volontairement, on peut aller sur Internet, vu que c'est la mode d'aller chercher sur Internet, c'est un bel outil, il n'y a rien pratiquement. Il n'y a que des banalités, mais sur l'histoire de la galoche, il n'y a rien parce que personne n'a écrit de livre, il n'y a pas eu de thèse. L'histoire du sabot, je me répète, elle est bien ciblée. Mais la galoche, tout s'est perdu. Alors ce sont mes déplacements, bien sûr, dans toute la France, mais surtout aussi... ce que les visiteurs m'ont apporté. Chacun et chacune des visiteurs qui sont venus m'ont donné des bribes, des petits morceaux qui soit m'apportaient des éléments nouveaux ou soit corroboraient avec ce que j'avais appris dont je n'étais pas sûr. Parce qu'on m'a donné des outils dont je ne savais pas du tout à quoi ils servaient. Et ce sont les personnes qui sont venues qui m'ont dit « j'avais tel outil » ou « mon père avait tel outil ». Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont apporté des outils de leur grand-père et ça, qui m'ont apporté des galoches de leur grand-mère, de leur mère. Et ça, c'est émouvant parce que c'est... Dernièrement, il y a une personne de Virieux qui m'a apporté sa paire de galoches de 10 cm, 12 cm de long. Quand elle était petite, elle en a fait cadeau au musée, mais c'est émouvant parce que c'est une paire de galoches toute petite, une galoche de poupée, et la personne marchait avec. Mmh. Et ça, c'est extraordinaire. Les gens qui viennent sont toujours très surpris parce que ce musée, effectivement, c'est un mouchoir de poste, mais il est petit mais grand par les vocations qu'il rappelle. Tout est à l'intérieur, à savoir que c'est plein comme un œuf, c'est pas un musée. C'est pour ça qu'on essaye de l'appeler lieu de mémoire, parce qu'il n'y a pas de panneau décoratif, c'est. L'odeur y est.
Ça, c'est vraiment bien, l'odeur. Voilà. Parce que ça saisit les gens en rentrant, ils sont tout de suite dedans. Quoi.
Alors, lorsque les gens rentrent dans le musée, je les laisse rentrer en premier. Parce que dès l'extérieur, c'est tout petit. Et je vois la réaction des gens. Ils disent, bon, on s'est encore venu voir un attrape-nigo, c'est tout petit. Mmh. Et non, lorsque les gens rentrent, je les vois tous, ils s'arrêtent tout de suite. Et ils font haut comme ça, parce qu'ils ne s'attendaient pas. Et quand ils sont dedans, eh bien, ils sont comme... Et ça leur rappelle leurs souvenirs, parce que beaucoup, leurs parents étaient galochiers, cordonniers. Et à ce moment-là, les gens se recréent. Puis il y a tout, il y a absolument tout. C'est plein comme un œuf, à savoir que c'est pas...
Il y a les outils, il y a les machines, il y a les cuirs,
Les gabarits, les lacets. Alors les lacets, je reviens à l'instant de Roanne. On m'a donné, un ancien galochier, environ 500 lacets en cuir. Ah. Parce que les lacets sont encore dans toile ou en ce que l'on veut. Mais à l'époque, ils se faisaient dans les chutes de cuir. On prenait un petit carré de cuir, on mettait une pointe au milieu, on le faisait tourner et on découpait en spirale. Et avec un bout de cuir de 8 cm par 8, on obtenait un lacet d'un mètre de long. Et ça, c'est très dur à trouver. Et on vient de m'en donner un...
c'est un beau cadeau, là.
Voilà. Et ça sera dans le musée dans peu de temps.
Le futur musée, peut-être
Oui, tout à fait. Non, mais il y a des belles choses. Les gens qui viennent amènent des choses et ils amènent leur savoir. Et la visite commentée dure théoriquement une petite heure. Et bien souvent,
ça se prolonge
et les gens qui sortent, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'il y a plein d'anecdotes, parce que c'est profondément humain ce que l'on montre. Si on le voit sans visite commentée, ça a peu d'intérêt. On voit quelque chose. Par contre, si on raconte l'histoire humaine de ces galoches, par exemple, et quelque chose moi, qui m'a ému comme c'est pas possible, il y avait une personne qui est venue me voir, qui a de 80 ans à peu près, elle habitait sur le plateau de Langres, et le plateau de Langres, c'est un plateau qui n'est pas réputé pour être chaud l'hiver, et la personne avait comme voisin des immigrés polonais, donc ça veut dire que si lui était pauvre, les immigrés devaient être plus pauvres. Et en arrivant à l'école dans la neige, la maîtresse s'est aperçue que les petits gamins polonais avaient les chevilles bleues, ankylosées, bleues, tuméfiées. Et la maîtresse a posé la question et les gamins ont avoué que les galoches pour eux c'était tellement cher et que leurs parents n'avaient pas d'argent du tout, qu'ils quittaient leurs galoches, les mettaient autour du cou avec les lacets, marchaient à pied pour aller jusqu'à l'école et à entrer à l'école mettaient leurs galoches pour ne pas les abîmer. Ça c'est extrêmement fort et c'est dur à écouter ça. Voilà.
Eh bien, on en sait beaucoup sur ce petit musée. Pour les informations pratiques, donc, on ne peut accueillir que 8 personnes à la fois. Et on doit téléphoner à vous.
Voilà, il faut téléphoner. Alors, pour le moment, les périodes d'été, juillet, août, il faut téléphoner à l'office de tourisme de Virieux ou à la mairie de Virieux. À ce moment-là, les personnes s'inscrivent, si on peut dire, mais ça se fait assez bien. Ça, c'est tous les jeudis. Si l'office de tourisme ne peut pas, à ce moment-là, on donne mes coordonnées. Je peux les donner aussi. Et à ce moment-là, les gens peuvent visiter ou en groupe. Mais la difficulté, c'est effectivement que par 8, si c'est un groupe de 30 personnes, il faut attendre. Mais nous avons un projet avec la commune de Virieux. Nous sommes en train, et je suis en train de de chercher des solutions pour trouver un autre local pour recevoir un musée digne, enfin pas digne de ce nom, mais dans lequel on peut recevoir 25 visiteurs, deux groupes de 25 pour faire un quart de 50. Voilà.
Alors vous reviendrez nous en parler.
Et bien sûr, avec plaisir.
Merci beaucoup Louis
Merci
Fournier.
Beaucoup,
et
beaucoup,
puis Isabelle. Pour toutes ces renseignements, et vraiment ça nous donne envie d'y aller. Très vite.
Je serai à l'écoute de tout le monde, voilà.
Merci beaucoup.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Elisabeth Boivin.